I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee it.
On est de retour à la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier qui vont nous faire leurs prédictions pour cette semaine. Ça a l'air de quoi jusqu'à maintenant vos prédictions, les gars?
Ben, c'est très serré. Je mène par une prédiction. La semaine dernière, Steph est 9-14. De mon côté, je suis un très ordinaire 8-14. Donc, c'est 60-91 de mon côté et 59-91 du côté de Stéphane.
Ouh, OK. Est-ce qu'on commence en force cette semaine avec le match des Giants et des Eagles, le retour du Thursday Night Football?
Commencer ça en force, c'est un bien grand terme, mais bon, on va commencer tout simplement. Des blessures qu'on doit signaler là, du côté des Eagles, le porteur de ballon Miles Sanders qui devrait pas jouer, même chose, Zach Ertz, l'ailier rapproché qui va être absent, Malik Jackson, le plaqueur. Donc, tantôt quand je vous parlais d'avalanche de blessures, c'est pas des jokes, là. C'est vraiment à chaque semaine, ils s'en rajoutent sur le tas. Néanmoins, les Giants sont tellement mauvais, tellement pitoyables à l'attaque, que je pense que Carson Wentz va amener son équipe dans la zone des buts juste assez pour aller chercher une victoire là, probablement durement acquise, mais on va y aller avec les Eagles malgré tout, ce qui en dit très long sur ce que je pense des Giants.
Je vois le même raisonnement. Je pense que Carson Wentz va en faire assez avec son équipe décimée. Puis honnêtement, les Eagles depuis 3 ans, là, tu sais, je comprends que c'est next man up, puis OK, il y a un blessé, si t'en as un autre qui y va, mais ils sont vraiment pas chanceux, là, les Eagles. Ils perdent tout leur arsenal. Donc, victoire quand même des Eagles face aux Giants.
Un match intra-division, un autre, les Bengals contre les Browns. On disait que Mayfield allait rebondir. Est-ce que, Jean, tu y vas jusqu'au bout?
Oui, jusqu'au bout, mais pas avec grande conviction. Le premier match entre les deux équipes avait quand même été relativement serré. Je pense que les Browns vont s'imposer, mais ça va être difficile. Puis c'est plus que j'ai confiance en la défensive poreuse des Bengals. Donc même s'ils prennent les devants, on sait que les Browns peuvent revenir.
Je pense que Mayfield est béni, honnêtement, après un match difficile comme il y a eu la semaine passée, de tomber contre les Bengals, qui sont compétitifs hein, cette année. Leur fiche de 1-4-1, c'est pas comme par les années passées. On sent qu'ils sont dans chaque match. Ils donnent une bataille à leurs adversaires. Ça, faut le souligner, parce que des fois, les fiches, faut en prendre et en laisser.
Ils ont juste eu contre les Ravens, qui a eu une absence, mais le reste, exact. Très serré.
Tu sais, c'est ça, ils se battent. Donc, je pense que ça va être encore le cas cette semaine. La grosse différence, j'ai l'impression que ça va être Myles Garrett dans ce match-là. Tu sais, la ligne à l'attaque des Bengals est tellement ridicule. Honnêtement, ça fait peur. Quand tu vois Joe Burrow derrière cette ligne-là, tu te demandes est-ce qu'il va finir l'année? Est-ce que sa carrière va être écourtée? Est-ce que son espérance de vie va être écourtée, rendue là? Il va falloir corriger ça au plus sacrant. Puis Myles Garrett joue de l'excellent football cette saison. Il a été un peu plus absent, disons, contre les Steelers. Je pense qu'il y a un sac, mais quand même, c'est pas le gars qui a appliqué la pression jeu après jeu. J'ai le feeling qu'il va se ressaisir et que ça va être un pique-nique contre la ligne à l'attaque des Bengals.
Dallas contre Washington, à Washington.
Hey, tu nous amènes dans des grands crus, Jean-Nic. Encore la bonne vieille division NFC East. Écoute, puisqu'il faut choisir un gagnant, là, j'imagine que c'est le but de l'exercice. Je vais y aller avec les Cowboys. Andy Dalton qui devrait se ressaisir. J'aime par contre le front défensif de Washington. Donc, c'est dangereux pour la ligne à l'attaque éclopée des Cowboys. Écoute, il y a trop d'armes du côté de Dallas pour que ça en reste là. C'est impossible. Ils ont 3 excellents receveurs, un bon jeu au sol. Dalton qui est pas un partant de qualité extraordinaire, mais qui est un réserviste de luxe là, en ce moment pour les Cowboys. J'y vais avec eux tout simplement parce que je fais aucunement confiance à l'attaque des sans noms.
Écoute, je vois qu'il y a une petite surprise. Moi, j'ai l'équipe de Washington dans ce match-là. Oui, les Cowboys ont plus de talent, mais ils ont démontré depuis le début de la saison qui ont une grande qualité, et c'est entre parenthèses évidemment que j'utilise le mot qualité, c'est qu'ils se tirent dans le pied constamment. Et je ne vois pas pourquoi ce serait pas la même chose en fin de semaine. Je pense que les Cowboys vont trouver une façon de donner le match à Washington, soit par revirement, par un mauvais coaching, qui d'ailleurs est ressorti par les propres joueurs des Cowboys. Donc ça sent pas bon cette histoire-là. Victoire de Washington.
Les Lions contre les Falcons en fin de semaine.
Je prends les Falcons dans ce match-là. Un, pour une des choses, il va avoir beaucoup, beaucoup de points marqués dans ce match-là. Définitivement, prendre le over, j'ai l'impression que ça va être un festival offensif. Puis, ma raison pour prendre les Falcons est simple, c'est que c'est un match que les Lions doivent gagner absolument. Et dans le passé, à chaque fois que les Lions devaient gagner, ben, ça a été le contraire. Donc, c'est pour ça que je prends les Falcons.
Hey, là, tu frappes dans le mille, Jean. Honnêtement, écoute, tu t'apprécieras peut-être pas, mais c'est pas grave. Je m'apprêtais à prendre les Lions. Puis pour la raison que tu as donnée, quand on les attend, quand il y a un match qu'ils peuvent pas échapper, quand on commence à se dire, oh, ils sont 2 et 3, ils s'en vont vers 500, ça va être une équipe à considérer. Pouf, ils font patate. Écoute, je me rallie à ta savante analyse, puis j'y vais avec les Falcons, moi aussi, j'ai pas le choix.
Bien joué, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, Steph.
Exactement.
Puis les Panthers vont retrouver les Drew Brees et Michael Thomas, un duo qui a fait des dommages en fin de semaine. Est-ce que ça va être suffisant pour la Nouvelle-Orléans?
Moi, j'ai l'impression que oui, parce que Michael Thomas, bon, il y a eu des petits problèmes à l'interne, on le sait, une bataille lors de l'entraînement avec le maraudeur de deuxième année, Chauncey Gardner-Johnson. Bon, certains diront que c'est des choses qui arrivent, mais semble-t-il que Michael Thomas, il y a de plus en plus la grosse tête à Nouvelle-Orléans. C'est ce que des journalistes qui couvrent l'équipe au quotidien semblent mentionner de plus en plus. J'ai l'impression quand même que ça va s'être réglé à l'interne, qu'on va avoir parlé entre Sean Payton, Brees, Thomas, que les grands sages vont s'être un peu remis sur la même longueur d'onde. Puis je m'étonnerais pas même que Michael Thomas sorte son typique genre de match dominant là, à la 11 attrapés, 145 verges, 2 touchés. Ce serait pas surprenant du tout. La défensive des Panthers qui se bat là avec vraiment une férocité qui l'honore là, cette année. Moi, je m'attendais pas du tout à ces résultats-là. Mais de là à lutter contre un canon comme Michael Thomas, là, à moins, écoute, qu'il soit tout simplement pas remis de sa blessure à la cheville, mais ça semble pas être un problème dans son cas là actuellement. Donc, j'ai l'impression que les Saints vont sortir fort dans ce match-là.
Ouais, Drew Brees retrouve son jouet préféré, victoire des Saints, qui va gâcher un peu le retour de Teddy Bridgewater en Nouvelle-Orléans.
Et les Bills, eux, s'en vont sur la route favorite par plus de 10 points pour affronter les Jets.
Les Jets. Je vais prendre les Bills, les gars, c'est aussi simple que ça. Les Bills sont vraiment dus pour un match complet, dominant offensivement et défensivement. Puis honnêtement, dans ce temps-là, la prescription du médecin, c'est d'affronter les Jets.
Excellent, puis j'y vais avec les Bills aussi, évidemment, mais la question, c'est pas est-ce que les Bills vont gagner, il faut vraiment qu'ils sortent un gros match. Ils sont dus. Deux défaites contre des prétendants sérieux là, dans la conférence américaine. T'sais, coup sur coup, ils perdent. Ils se font écraser même par les Titans. Ils perdent sans trop d'équivoque contre les Chiefs. Ça fait mal un peu à l'ego des Bills. Je pense qu'il faut non seulement qu'ils gagnent contre les Jets, mais qu'ils aplatissent les Jets à plate couture, qui leur donne une bonne vieille volée, c'est ce qui peut redonner confiance à l'équipe. T'sais, s'ils l'emportent, mais que c'est un genre de match où ils gagnent 19 à 13, puis que Josh Allen est un peu chambranlant, il y en a qui vont commencer à se poser des questions là dans leur cas. Donc, faut pas que ça arrive, faut que tu gagnes, puis de manière là, convaincante au maximum.
Le prochain match, les Packers contre les Texans. Si les Packers gagnent ce match-là, il va y avoir des rumeurs d'échange du côté de Houston. Tu en penses quoi, Jean?
Ben, écoute, je regardais les Texans, puis je trouve que c'est une meilleure formation que leur fiche indique, qui est une victoire 5 défaites. Mais malgré tout ça, je vais prendre l'attaque des Packers, puis je pense qu'Aaron Rodgers va vraiment sortir un meilleur match que la semaine dernière. Puis maintenant, ben, tout ce qu'on pourra dire, c'est que les Texans sont une meilleure équipe que leur fiche de 1 victoire, 6 défaites.
Ouais, j'ai pas le choix d'y aller dans ce sens-là. Écoute, les Packers, non seulement Rodgers va sortir meilleur que la semaine passée, mais surveiller Aaron Jones, le porteur de ballon. Tu sais, les Texans viennent de se faire piler d'en face au-dessus de 200 verges par Derrick Henry. Avant ce match-là, ils donnaient déjà 160 verges par match au sol. Je sais pas combien sont rendus là, si vous ajoutez les 200 quelques de Derrick Henry. Mais il y a Aaron Jones qui salive en ce moment, qui a le couteau entre les dents probablement. Donc, les Packers, de manière, je pense, assez convaincante.
Les Seahawks, eux, s'en vont affronter Kyle Murray en Arizona.
Oui, écoute, la fiche des Cards depuis 2015, c'est 4 victoires, 5 défaites, 1 nul face aux Seahawks. C'est des matchs qui sont toujours âprement disputés. Moi, j'ai les Cardinals, un match, une victoire surprise des Cards. Je pense qu'ils vont être dans le match. Évidemment, quand tu affrontes une défensive poreuse comme celle des Seahawks, je pense qu'ils vont être en mesure de faire des points. Et pour une rare fois, le magicien Russell Wilson va être à court dans son chapeau de magie.
Ça, c'est un match qui m'intrigue beaucoup. On c'est sûr, on a tous hâte de voir en fin de semaine Steelers-Titans, mais s'il y a un autre match, là, moi, que je veux absolument pas rater, c'est celui-là. Les Cardinals, qui jouent très bien défensivement depuis deux semaines, ça fait deux matchs de suite qui donnent seulement 10 points. Le maraudeur Buda Baker, vraiment, là, quand il a eu son gros contrat avant la saison, il y en a qui se demandaient, mais comment ça, est-ce que c'est justifié? Il est en train de prouver que c'est le meilleur, sinon l'un des meilleurs maraudeurs à travers la NFL. On l'emploie partout sur le terrain, des fois comme secondeur aussi. Du côté de Seattle, ben c'est de voir est-ce qu'il y a encore, justement, comme tu le mentionnais, Jean, des tours de magie dans le sac à Wilson. Je pense que oui. C'est toujours des matchs corsés dans la division Ouest. On le sait, regardez les Niners qui viennent de surprendre les Rams. Ça se passe pas souvent comme on le pense. Puis il y a jamais un match normal des Seahawks, de toute façon. Il va arriver des rebondissements. Il va arriver quelque chose d'inattendu. Je vais y aller avec eux. Mais ça va être, je pense, spectaculaire jusqu'à la fin.
Les Patriots sont favoris quand même par presque un touché contre les 49ers qui leur rendront visite en Nouvelle-Angleterre.
Ouais, c'est peut-être un peu un touché, mais j'ai les Pats qui se ressaisissent en fin de semaine. Je pense que Cam va avoir une bonne rencontre. Il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner avec la semaine dernière. Je pense que c'est le genre d'attaque aussi que tu sais, Bill Belichick a vu toute sa vie là, ce genre d'attaque au sol avec un outside zone, et puis après ça un bootleg. Il est habitué, là, le vieux Bill. Là. Il va avoir un bon plan de match. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il va sortir George Kittle du plan de match offensif des Niners. Donc, j'ai une victoire des Pats dans ce match-là. Et je pense vraiment que la blessure de Raheem Mostert, c'est une blessure importante pour les Niners.
Ouais, j'ai l'impression que les Patriots vont sortir une bataille physique aux Niners. Là. Ça va y aller au sol avec plusieurs porteurs de ballons différents, avec des jeux d'options de Cam Newton. Les Niners, trois fois cette saison, qui ont accordé plus de 100 verges au sol. C'est pas le front défensif qu'on a connu l'an passé. N'oubliez pas que tu as Solomon Thomas, Nick Bosa qui sont plus là, qui sont blessés, DeForest Buckner qui est parti à Indy. C'est l'occasion pour les Pats d'imposer le style physique qui leur a fait avoir du succès en début de saison. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils vont orienter leur plan de match et ça va fonctionner.
Les Broncos, forts d'un match de 6 placements, reçoivent les Chiefs.
Ouais, il va falloir plus que 6 placements pour battre les Chiefs. Il va probablement t'en prendre 18. Là. Ça risque pas d'arriver. Il va falloir que les Broncos ouvrent leur jeu beaucoup. Tu sais, Drew Locke a montré de belles choses, là, à part les deux interceptions horribles en fin de match contre les Pats la semaine passée. C'est un corps arrière qui est jeune, qui a très peu d'expérience. Tu sais, oui, il est à sa deuxième année, mais il a parti tard l'an passé. Cette année, il a été victime d'une blessure. Donc, on va pas commencer à taper dessus. Mais je l'imagine mal traîner cette attaque-là, aller inscrire 30-35 points, là, parce que c'est ça que ça va prendre au minimum pour lutter contre les Chiefs. Donc, je le vois tout simplement pas dans ce duel-là, en arriver là, à ce stade aussi précoce de sa carrière. Donc, victoire Chiefs, avec beaucoup de points encore une fois.
Victoire des Chiefs aussi. J'ai juste un petit message à Andy Reid, c'est d'éviter de faire des faux filades du corps avec Patrick Mahomes. C'est parce que c'était à Denver que c'était arrivé. Donc, s'il évite ça, victoire des Chiefs sans problème.
Les Raiders et les Bucks, pas un match facile à prédire, mais peut-être c'est facile de prédire qu'il va y avoir beaucoup de points dans ce match-là aussi.
Oui, moi je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de points qui vont se compter malgré la très bonne défensive des Bucks. Mais moi ce que j'aime des Raiders, un, c'est qu'ils ont eu un bye, donc une semaine pour se préparer additionnelle contre la défensive des Bucks. J'aime la ligne à l'attaque des Raiders. Ils sont gros, ils sont pas fins. Ils veulent établir un jeu physique. Je pense qu'ils vont mettre en branle M. Jacobs au sol. Puis par la passe, ben je pense qu'ils visent un petit peu plus profondément. Ils sont un petit peu moins conservateurs. Ils ont plus d'outils aussi pour le faire maintenant là, avec Ruggs comme receveur et Nelson Agholor qui, étrangement, pogne les ballons cette année.
Mais oui.
Donc, victoire des Raiders, moi, dans mon cas.
Je vais y aller avec les Bucks ici parce que il y a un aspect qui est sous-estimé de leur jeu. Ça fait 2-3 semaines en ligne que Ronald Jones, moi, c'est un porteur de ballon que j'avais un peu discarté. Là, c'est comme si je me disais qu'il avait raté son coup avec lui. 2-3 matchs en ligne là, qui est à 100 verges et plus au sol. Donc, c'est un aspect qui s'ajoute à l'arsenal offensif des Bucks. Une très bonne ligne à l'attaque. Le bloqueur recrue Tristan Wirfs qui joue vraiment du gros, gros football. Il accorde très peu de pression. Tom Brady, son uniforme était propre la semaine passée face aux Packers. Puis c'est en grande partie à cause du jeu de leur recrue. Un gros ajout de leur côté. Donc, le front défensif des Raiders qui devrait être neutralisé là, avec les Crosby et compagnie. J'y vais avec une victoire des Bucks dans le Pirate Bowl à Las Vegas. Ça devrait être du bonbon encore là dimanche soir.
Parlant de match qui devrait être du bonbon, est-ce que les Steelers vont battre les Titans? On a entendu un peu vos analyses plus tôt, Jean.
Écoute, c'est la deuxième meilleure offensive, celle des Titans, qui font face à la deuxième meilleure défensive. La meilleure, si on regarde celle des points, marquée celle des Steelers. Ça va être un match pour hommes. Ça va être le match le plus physique de la fin de semaine. L'équipe qui va être en mesure d'installer, je pense, ou gagner la bataille des fronts va l'emporter. J'ai l'impression que l'attaque balancée des Titans va faire mal paraître la très bonne défensive coriace des Steelers. J'ai une victoire des Titans de façon assez serrée. Je dirais 24-21.
J'y vais avec les Steelers de mon côté. J'ai comme le feeling que Tannehill joue de l'excellent football, mais qu'il a peut-être pas été souvent sous une pression insoutenable comme celle à laquelle il pourrait faire face là, provenant des Steelers. Les T.J. Watt, Bud Dupree, Cam Hayward et compagnie, ça risque de brasser beaucoup plus là, autour de lui que dans les matchs précédents. Puis, tu parles de la bataille physique. C'est clair, ça va être un match là où il va se donner des coups comme pas possible. Ça va être vraiment très, très, très physique.
Je sais que c'est interdit, mais il va y avoir quelques coups de bonnet qui vont se donner dans ce match-là.
Ah oui, ça c'est clair. Ça jouera peut-être pas toujours propre. Puis dans un match physique comme ça, moi, ça me fait peur du côté des Titans. La perte du bloqueur Taylor Lewan, c'est vraiment une force de la nature. C'est, on parle de gars qui sont pas fins, qui sont en bon anglais, là, nasty là, sur la ligne offensive. Ça en est un. Là. C'est un soldat pour les Titans. J'ai comme le feeling que ça va être difficile de ce côté-là sans lui et puis que les Steelers pourront en tirer profit.
Jacksonville traverse le pays au complet pour aller jouer à Los Angeles contre les Chargers.
Et tu viens de nous ramener sur le plancher des vaches, toi?
Ouais, ça a été un match un petit peu moins intéressant à regarder.
Un petit peu moins. Les Chargers qui, en plus, avaient une semaine de congé, donc vont être frais et dispo pour affronter les Jags. Je pense juste que les Jags manquent de punition. Écoute, c'est comme j'ai dit, ça fait 5 matchs de suite qui donnent 30 points et plus. Ben moi, je pense que ça va être un 6e. Dans le cas de Jacksonville, victoire des Chargers.
Ouais, c'est le temps pour Justin Herbert de développer sa confiance dans un match comme celui-là. Tu affrontes une défensive qui en arrache. C'est le temps d'aller chercher des gros jeux, d'étirer le terrain. Ça devrait bien fonctionner de ce côté-là. Les Jaguars qui sont capables d'arrêter personne actuellement. Puis, grosse régression du côté de Gardner Minshew qui montrait des belles choses l'an passé, qui était encore prometteur les 2 premiers matchs cette année. Il a été franchement bon. Depuis ce temps-là, il semble se chercher. Les Jaguars vont nulle part, donc victoire Chargers.
Et l'autre équipe de Los Angeles reçoivent les Bears de Chicago.
Ouais, au Monday Night Football. Écoute, je pense que je vais leur regretter cette prédiction-là, mais j'y vais avec les Bears. C'est un club que j'ai mal sizé depuis le début de l'année. Là. Ils me font mentir. Chaque fois que je pense qu'ils vont perdre, ben ils gagnent. Puis quand la seule fois que j'ai dit qu'ils allaient gagner, ils ont perdu. Donc, je joue avec les Bears quand même. Je pense que la défensive des Bears joue de mieux en mieux. Et ils vont être très coriaces encore une fois face aux Rams. Donc, ça veut dire que Nick Foles n'a pas beaucoup à faire pour l'emporter. C'est ce que je crois qui va arriver. Donc, victoire serrée des Bears.
Ça en est un qui me fait hésiter beaucoup. Je vais y aller avec les Rams de façon très peu convaincue. Écoute, la défensive des Bears, j'ai rien à dire. C'est vraiment une défensive sérieuse. T'as des gars comme Khalil Mack, Hakeem Hicks, des gars dans tertiaire aussi là, qui sont extrêmement efficaces. Mais cela dit, la ligne à l'attaque des Rams me semble clairement améliorée là, cette année par rapport à l'an passé. C'est une autre attaque. On est capable d'attaquer au sol autant que par la passe. Ça va faire beaucoup à gérer pour les Bears. Puis dans un match où ils risquent d'avoir pas nécessairement beaucoup de points, je fais tout simplement pas confiance à l'attaque des Bears. Je le sais, Nick Foles est capable, puis c'est un corps arrière qui a été gagné un Super Bowl, mais ça me rentre pas dans la tête que cette équipe-là soit 5-1, encore moins 6-1 s'il gagne. C'est peut-être de l'entêtement de ma part, parce que j'ai souvent dit depuis le début de notre émission cette année que les Bears avaient l'affiche la plus frauduleuse parmi les équipes gagnantes. Ils me feront peut-être mentir, mais écoute, peut-être que je vais commencer à peine à réaliser l'ampleur des dégâts, là. Mais je continue de croire que ce club-là, le Château de Cartes, va tomber tôt ou tard, puis ça commence cette semaine.
OK, merci les gars. On est en zone rouge, mais quand même, là, vous allez trouver le moyen d'envoyer des gars au bar. Restez là, on va savoir qui après la pause.